Je suis chez Sarah et Landry, à Écully, juste à la sortie de Lyon, autour d'un thé et de petites pâtisseries. Et on va faire la connaissance pour commencer avec Landry.
Je suis Landry, hein. Je suis élève au lycée Lamartinière du Cher de Lyon, dans le 9e. Je suis domicilié à Écully.
Bah, je m'appelle Sarah. J'avais ma copine qui le connaissait, vous habitez au même endroit. Puis je l'ai rencontré, et puis on a commencé, comme tout le monde en fait. Et 4 ans après, on est encore là.
Je viens de Côte d'Ivoire, à la suite d'une histoire qui m'a un peu bouleversé au niveau de mes études. Et grâce à Dieu, j'ai pu revenir et reprendre l'activité que j'avais laissée.
Landry et Sarah sont des jeunes étudiants de Lyon qui tombent amoureux. Ils s'installent ensemble et s'essaient à la vie de couple comme le font des milliers d'autres à cet âge-là. Sauf que Landry est ivoirien. Il va donc être considéré comme un gibier dans la chasse aux sans-papiers et va faire plusieurs allers-retours entre Lyon et Abidjan. Sarah va tout faire pour l'aider et va donc elle aussi subir les conséquences de la clandestinité. C'est Landry et Sarah, l'un pour l'autre, un reportage en deux parties. Premier chapitre aujourd'hui, deux allers. Un retour.
Landry et Sarah, l'un pour l'autre.
Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, 10 septembre 1984. Je suis arrivé en France en 2001 pour faire mes études. Je suis arrivé en première S au lycée Pierre Brossolette à Villeurbanne.
Pourquoi t'as quitté la Côte d'Ivoire du coup ?
Quitter, c'était plus, partir en France pour ses études en fait. Quitter, ça paraît un peu péjoratif, mais bon, c'est plus partir pour les études. Partir en France pour les études.
C'est pas facile de quitter son pays à 16 ans.
Non, j'avais 17 ans.
17 ans, c'est pas
facile. Et oui, c'est pas facile en effet, parce qu'en plus on n'a pas. On commence justement à prendre ses racines. Enfin, on commence à vraiment connaître un peu voir les choses autrement et on part. Bah, ici, j'étais bien accueilli de toute façon, donc j'ai pu justement faire mon deuil, on dit ça chez nous. Partir bien en fait, bien partir en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai gardé mes relations justement avec mon pays, quoi. Pas de souci.
Ça, c'était en 2000-2001
2001, oui.
2001.
Voilà, donc au lycée Pierre Brossolette, où j'ai fait ma première année qui n'a pas été très concluante, en fait. Voilà, j'ai fait une année qui m'a pas... J'étais un peu dégoûté, en fait. Je pense que là, j'ai pas pu prendre mes marques au niveau des études. Et j'avais beaucoup de trucs qui m'étaient dans la tête, ce qui fait que j'ai pas pu terminer bien mon année. Enfin, parce que, bon, à 17 ans, on débarque... On n'a pas vraiment d'axe, en fait. Et on a juste des paroles qui viennent de là-bas pour dire, bah, écoute, faut aller comme ça, faut aller comme ci. Et on n'a pas vraiment d'axe pour vraiment diriger ses études, en fait. Donc, il fallait que je reparte pour vraiment prendre la base avant de revenir, en fait.
Ok, donc l'année scolaire ne se passe pas tellement bien. Du coup, tu retournes au pays.
Donc après, là, il y a des événements qui apparaissent sur Côte d'Ivoire. Il faut en revenir précipitamment.
Direction la Côte d'Ivoire maintenant avec, je vous le disais, de nouveaux signes de craquement. D'abord, on signale une dizaine de morts dans des heurts entre chrétiens et musulmans au nord d'Abidjan. Et puis, pour la quatrième journée consécutive, des manifestations anti-françaises ont occupé la rue dans la capitale. Abidjan, d'autres ressortissants français venus des villes alentours ont été mis en sécurité. Envoyés spéciaux Bruno Giraud, dont Sylvain Barra, avec un commentaire d'Hervé.
On aura lentement, on a eu un minimum d'espace entre les véhicules.
Côte d'Ivoire, mon beau pays,
le seul moyen d'être escorté.
Pays d'hospitalité, pays de fraternité. Mais les politiciens ont décidé de te transformer. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir en larmes. Ma Côte d'Ivoire. Je ne veux plus te voir prendre les armes.
Il y a eu plusieurs événements qui sont succédés. C'est plus une rébellion à la base. Et après, il y a eu des coups d'État successifs qui se sont enchaînés, qui ont fait justement que les personnes qui étaient au niveau du pays au nord ont descendu au niveau du sud. Et là, il y a eu un peu... Enfin, je ne peux pas appeler ça comme une guerre civile. Mais déjà, il y a eu un truc qui ressemblait un peu à ça. Que bon, d'autres personnes qui connaissaient des personnes qui étaient liées au pouvoir ou politiquement, ils ont dû faire évacuer leur famille pour éviter justement les répercussions. Donc mon père, qui à l'époque connaissait justement des personnes qui étaient au pouvoir, et j'ai des oncles aussi qui sont ambassadeurs, donc ils ont préféré évacuer leur famille sur le coup, en fait. Donc, qui tout le territoire et puis j'ai pu arriver en France.
Watu do ye no manyam de te te ama manya de wo ala ki ma o kini mama ben kramen be o kini mama ben kramen be kini mama ben kramen be o.
Tu reviens donc en France pour la terminale ou pour la fin?
Non, pas la première.
La première, encore de nouveau, donc tu retournes à Brossolette.
Parce que j'ai rétape. Et donc je retourne à Brosso. Et là, j'ai pu suivre mon cursus dans mes meilleures conditions, passer mon bac et tout, que j'ai eu. Après, je suis allé à la fac, où justement, je me suis encore heurté à quelque chose qui est, on va dire, un système éducatif universitaire qui était un peu spécial, on va dire, à la doigt, en fait.
C'est-à-dire ?
Moi, j'ai besoin d'encadrement et à l'université, on n'encadre pas trop, en fait. Donc, tout ça, ça fait que première année, bon, voilà, partiellement, avec deuxième année, avec des yeux à rattraper, enfin, finalement, ça n'a pas plu, quoi.
Et c'était quoi ? T'étais en quoi ?
J'ai fait une première année de licence sciences et technologies, physique, chimie, sciences pour l'ingénieur. Et donc, après, quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai voulu m'inscrire en BTS et j'ai pas pu, au fait. Parce que, justement, je me suis pris en retard en fait pour l'inscription, parce que le BTS il faut s'inscrire en février, donc j'ai dû faire un an à essayer de rien foutre, quoi. Voilà, excusez-moi le terme là. Donc j'étais vraiment je cherchais du boulot, enfin sans papier, parce que voilà, c'était pour que j'étais sans papier en fait. À mon retour de Côte d'Ivoire, j'étais sans papier.
Quand ta famille t'a envoyé en France un peu pour te protéger, ils t'ont envoyé en France sans visa, sans rien?
Voilà, j'étais sans papier. Et donc ce qui fait que après, j'ai dû faire une demande au niveau de la préfecture qui a été refusée. Première demande. Pour moi, je savais pas que c'était aussi dur au fait de se régulariser. Tout simplement, je pensais que c'était fallait faire un courrier pour montrer les preuves que vraiment on veut s'intégrer, qu'on veut avoir des papiers, quoi. On veut être en règle, parce que c'est déjà la volonté d'être en règle, pas forcément rester dans la clandestinité, vraiment vouloir rester, se régulariser, au fait. Ça m'a vraiment fait mal, hein, parce que moi je pensais, parce que c'est là où j'ai vraiment réalisé que ça va pas être facile, au fait, ça va pas être du gâteau, et j'ai dû laisser tomber l'histoire. Et j'ai dû reconcentrer sur une recherche d'école, pour vraiment terminer mon cursus et vraiment me mettre dans un truc où je vais rester dedans et aimer au fait ce que je fais, en fait. C'est vraiment trouver le truc que j'aime, en fait. Et c'était informatique que j'aimais. Donc j'ai trouvé un BTS informatique avec les écoles, bouche à oreille, puis voilà. Parler de la Martinière. Entre temps, on avait aménagé ici.
Sarah, vous vous êtes rencontré comment, du coup? Tu l'as rencontré où?
Je l'ai rencontré pendant que j'étais encore à Bron. C'était avec une de ses amies qui est à Bron aussi, qui la connaissait, elle, et donc on a fait une soirée avec des amis, et puis elle, sa copine qui était à Bron, que je connaissais, puis voilà, on a fait une soirée, puis voilà, okay, dans la soirée, on s'est connus. Et hop, on s'est connus, et puis voilà, c'était sympa. Après, c'est venu tout seul, petit à petit, et puis voilà, on a décidé de se mettre ensemble, puis c'est tout seul, quoi, c'est en fait, ça arrive tranquille.
Ouais, c'est la première, c'est ma première relation stable, en fait. Donc j'ai dit, au début je flippais un peu, je me suis dit genre, ça allait avec un garçon machin, ça me disait pas trop. Et après j'ai dit allons-y, puis Londres, voilà, j'étais bien, donc j'y suis allée.
Et t'étais au courant de ces histoires de papier?
Ouais, parce que
comment vous avez vécu ça, du coup?
Quand je les connais, t'es encore en train de faire ces demandes, c'est vrai que quand vous faites vos demandes, vous êtes pas encore tant que vous êtes encore en train de faire la demande, vous n'êtes pas régularisé, mais on ne peut pas vous expliquer que vous êtes encore en train de faire la demande. Donc moi, je l'ai connu, en train de faire sa demande, ça se passait bien. Et puis, à nos débuts, c'est non. Après, c'est vrai que moi, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et c'était plus dans le délire de... je me mets dans ma bulle et voilà. Je l'ai pas aussi... Enfin, c'est plus un truc que lui a ressenti que moi, j'ai ressenti. Je n'ai pas réalisé. Voilà. J'ai réalisé que c'est un truc qui le touchait, j'ai réalisé un truc qui le faisait mal, donc j'allais avoir plus de mal qu'une autre relation. Mais j'ai pas vu tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Ce que j'ai vu derrière, c'est beaucoup plus tard que je l'ai vu. Mais sur le coup, c'est demander, c'est refuser, on fera autre chose. Puis voilà. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, ça n'a pas été accepté, on fera autre chose. C'est aussi simple que ça. En même temps, il faut remettre dans le contexte. Voilà, je suis jeune, c'est un truc, j'ai pas eu de problème de papier, donc je suis française, donc j'ai pas dans ma famille quelqu'un qui a des problèmes de papier, je connais pas quelqu'un qui a des problèmes de papier, donc c'est un truc qui me. Pas qui me passe au-dessus, ça me. C'est plus lui que ça a touché que moi. Moi, j'étais plus, voilà, je suis jeune, j'ai un copain avec qui je suis bien et on va vivre notre truc. Voilà, j'étais plus dans ce délire-là.
Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi.
On va dire que jusqu'à un jour, je me suis fait interpeller, je m'étais jamais fait contrôler. Parce que je sais pas, peut-être que j'ai une tête de mec qui a les papiers. Depuis 2001 que je suis arrivé. J'ai jamais été une fois, on m'a dit, écoutez, non, jamais. Jamais. Sauf le jour où justement, voilà, comme par hasard, je me suis fait interpeller. Ça m'a surpris, parce que pour moi, je me dis, depuis quand on me demande. Enfin, pour moi, c'est un peu. Il me demande des papiers. Je donne des papiers. Derrière, regarde si justement, ce nom-là. Et en règle sur le territoire, en fait, c'est ça qui m'a dit, ah, bon, en fait, elle ne demande pas le papier pour voir qui je suis, si j'ai fait des bêtises, mais non, plus pour voir si je suis en règle. Mmh. Et là, j'ai réalisé que, ah, en fait, c'est plus comme avant, que maintenant, on ne regarde pas pour voir si, parce qu'en général, on recherche des personnes, donc on recherche par exemple un bandit ou un dealer ou je ne sais pas, donc on fouille dans le répertoire pour voir si le mec est recherché. Et là, justement, c'était plus pour voir si ce mec, non, s'il avait ses papiers, s'il avait son titre de séjour ou sa carte, enfin, il était français ou pas. Moi, j'ai dit à la base, je suis pas français, je suis étranger. Donc, c'était dans ce cas-là, regardez s'il a ses papiers. Et donc, c'est là où, justement, elle a vu que j'ai pas les papiers. Et elle m'avait dit quoi, là? Elle m'a dit, non, mais écoutez, monsieur, on va juste dire qu'on vous a vu, que vous n'avez pas vos papiers, c'est tout, après, on vous laisse partir. C'était en mai.
C'est
8 mai en fait. Jeudi 8 mai.
Landry et Sarah, l'un pour l'autre.
C'est après que j'ai réalisé que tout ce qu'il y avait derrière. Ce qu'on trouve, c'est qu'on est. Paradoxalement, la chasse, j'appelle ça une chasse moi, la chasse au papier, elle s'intensifie. Et nous, à côté de ça, je trouve qu'on a été relativement protégés. Vous voyez les trucs à la télé, ça reste toujours loin. Voilà, c'est ça le truc. Vous savez que voilà, je sais qu'il doit faire attention, ce qui fait que je sais toujours où est-ce qu'il est. Je sais des choses comme ça que vous apprenez, je sais toujours où est-ce qu'il est. S'il est en retard, je l'appelle. Si je l'appelle, il ne répond pas, là je vais paniquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a instauré petit à petit des choses de. Il faut toujours que je sache où est-ce qu'il est. Moi, de mon côté, il faut toujours que je sois joignable s'il a un problème. Et à côté de ça, vous vivez complètement normalement. Je veux dire, il ne se cachait pas. C'était pas. On voyait la chasse, mais loin à la télé. On voyait les gens qui se faisaient interpeller, mais toujours. On peut être concerné, mais c'est pas nous, c'est loin, c'est eux en fait. Je regarde le reportage à la télé, je suis choquée, mais à côté de ça, je rentre à la maison, il est là. Il va à l'école, nous ça va, on n'est pas touchés, on est en train de faire nos démarches et on va aboutir. Les choses s'intensifient, mais c'est pas nous. C'est loin, c'est la télé, c'est loin, c'est les autres. C'est ça en fait. Jusqu'au jour où là, c'est pas les autres, c'est vous. Et là, c'est plus pareil en fait.
Jeudi 8 mai, Metro Saxe Gambetta, c'était un peu un contrôle de routine, quoi. C'est à l'entrée du métro, quoi, et hop, on s'est fait attraper, quoi. Je les voyais souvent, là, en train de contrôler des gens. Je me dis, non, ils vont pas me contrôler, ils vont pas... Donc là, on s'est fait attraper, palper et tout. Enfin, papa, pour voir si on avait. Non, non, on avait acheté des bananes, on avait acheté de la viande et tout, on allait manger. On venait ici en fait, on allait faire un repas ici. On a acheté plein de trucs et tout, donc.
Vous étiez ensemble ?
Non, j'étais avec trois de mes amis. Comme je vous ai dit, bah écoutez, voilà, monsieur, on va juste faire une vérification au poste, on va juste écrire comme quoi, pour vraiment faire en sorte que je sois plus docile, je pense bien. Ouais, vous nous suivez, puis voilà, pas de soucis, après on vous libère. Donc moi je les suis. Déjà ils m'enferment, donc là j'ai pris ça bizarrement, m'enferme avec des jeunes et tout, qui ont fait des petits casses. Bon, je suis là, j'attends, on me dit rien. Oh, derrière, il faut se dire que c'est moi en marche. C'est là que j'ai compris, au fait. Faut pas passer de coup de fil. Elle essayait de m'appeler. Je ne pouvais pas décrocher, au fait. Je suis obligé d'envoyer des textos parce que eux, ils étaient mieux notés, mais ils arrivaient à s'envoyer des textos aux gens dehors. Donc, j'ai dit, envoyer un texto à la miss et à mes amis pour dire que voilà, je suis à Marius.
Moi, je suis là, j'avais pas de batterie. Donc, c'est peut-être vers 22h que je rallume mon téléphone parce que j'étais chez ma copine, je vais me faire coiffer. Et je reçois pas tout de suite le texto, avant ça je reçois un appel de Bad Marius qui vous dit « Bon bah on vous appelle de la part de monsieur et il est là. » Là je comprends pas en fait, ça arrive pas au cerveau, je comprends pas. Je me déplace à Marius, on veut rien me dire, parce qu'on a rien à me dire, on a pas de compte à me rendre. Et c'est du genre « Bah il va faire une garde à vue puis il va ressortir. » Et c'est vrai que juste que je me doutais que c'était ça, mais j'avais... En fait, c'est que vous arrivez à Marius, ils vous disent, bon, on va faire une garde à vue, et puis c'est tout, quoi. Comme si, je sais pas, c'est comme si vous allez voir votre petit frère qui a volé, et puis on vous dit, bon, bah, on va faire le truc, il va faire sa garde à vue, c'est 24 heures, et puis il va ressortir. Donc moi, la nuit, je dors pas, et ils me disent, on vous rappelle demain. Donc moi, demain, j'attends. Ils vont m'appeler, il va ressortir. Je percute pas encore. Ils m'appellent pas, ils retournent à Marius, ils me disent, bah, il est plus chez nous. Point.
Dans la garde à vue, j'ai connu. Un mec justement qui était passé par là qui m'a dit mais voilà comment ça va se passer, ils vont t'emmener ici, là demain matin il y a une dame qui vient te chercher pour aller ici, machin. Donc j'ai dormi là-bas, je me suis fait interpeller à 17h, donc jusqu'à 8h du matin j'étais en garde à vue. Et donc le matin on nous a réveillés, bah, écoutez bah, allons-y, hop on nous a appris, il y a des officiers qui étaient là, officiers de la PAF, ils sont frontières, ils nous ont emmenés dans leur bureau qui sont à côté aussi de la part Dieu. Là.
Et donc là je me dis bon bah je commence à me dire voilà c'est chaud là. Donc, je me dis, je commence à appeler les avocats et tout ça. Mais 8 mai, donc pont, donc pas d'avocat. Donc, je passe ma journée du 9 à chercher un avocat, chercher à appeler, j'ai personne.
Et donc, là-bas, on est resté jusqu'à 15h30. Donc, de 8h à 15h30, on a pris le chemin pour arriver à Fatoulas. Où c'était dans les environs de 16h, je crois. Entre-temps, ben, j'ai pu récupérer mes affaires et maintenant passer des coups de fil.
Donc après, donc ils m'envoient un message pour me dire je suis à Satolas.
Ils vont appeler tout le monde pour dire voilà la situation qui s'est posée. Il y a tant de, j'avais mon le dossier des charges contre moi au niveau de la préfecture. C'est la préfecture qui me chargeait, donc j'avais le document en main. Donc j'ai pu dire ben voilà, on me reproche ça. Voilà ce que toi tu peux faire. Déjà ici, il faut essayer de récupérer tous les documents qui sont là, ben, voilà, pour qu'elle récupère le document, pour monter un dossier, pour contrer ce que justement on me reproche.
Landry et Sarah, l'un pour l'autre.
La duchesse d'Anouville.
Il était parti acheter à manger, j'étais parti me faire coiffer chez ma copine. On avait un week-end, on avait un truc, on avait des choses à faire. Et d'un seul coup, c'est. Voilà, claquement de doigts, votre vie elle s'arrête.
Demain, à la même heure, on verra comment ces jeunes tourtereaux vont s'en sortir face à la politique anti-immigration. Landry et Sarah, l'un pour l'autre.
Un reportage d'Olivier Minot.
L'un pour l'autre, c'est aussi le titre de Soumbil qu'on entend actuellement. Un morceau choisi par Sarah. Merci donc à Sarah et à Landry. Merci aussi au réseau Éducation sans frontières Rhône. À demain.